Le 13-14, Marion Lourd.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce 13-14 à la une aujourd'hui. Le corps de cette vieille dame juive avait été retrouvé chez elle poignardé et calciné en 2018. Les accusés du meurtre de Mireille Knoll comparaissent à partir d'aujourd'hui. Nous serons en direct du palais de justice dans un instant. Que s'est-il passé dans le quartier de la Duchère à Lyon hier soir? Des policiers se seraient fait tirer dessus. Le ministre de l'Intérieur accuse l'absence de vidéosurveillance par le maire qui se défend. Mais le scénario reste encore très flou. Pas de réforme des retraites avant la fin du quinquennat. La mesure ne figure pas dans le budget de la Sécu qui doit être adopté aujourd'hui. Budget qui par ailleurs agace les médecins. On verra pourquoi. Dans le journal, nous serons aussi en direct de Briançon, dans les Hautes-Alpes, où des centaines de migrants afghans se sont retrouvés sans toit pendant deux jours. Leur refuge, à peine ouvert, a dû fermer au grand désarroi de Jean Gaborio, militant associatif.
Ça me met des sanglots. On a courbé le dos. On ne peut pas dépasser 81 personnes. Or, dimanche, on était à 200. On continue notre activité, mais à l'extérieur, mais pas dans les locaux du refuge, puisque c'est trop dangereux.
Les réfugiés ont finalement trouvé abri dans l'église de Briançon avec le soutien de l'évêque de Gap. Il sera l'invité du journal de 13h. Autre invité, à 13h30, le sénateur Philippe Bas, élu Les Républicains, rapporteur du projet de loi censé prolonger le pass sanitaire jusqu'à fin juillet. Lui s'y oppose, il nous dira pourquoi. Vos questions 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. À suivre aussi dans cette édition, nouvelle escale dans les marais salants de l'île de Ré avec notre feuilleton. On vous dévoilera le lauréat du prix Médicis et on vous racontera cette fresque très osée qui fait polémique au CHU de Toulouse. Le 13-14, vous avez le menu.
France Inter. Le 13-14.
C'était le 23 mars 2018. Un incendie se déclare dans un immeuble de l'Est parisien. Les pompiers sont appelés. Au deuxième étage, ils découvrent chez elle le corps de Mireille Knoll, frappé de 11 coups de couteau et partiellement calciné. Mireille Knoll avait 85 ans. Elle souffrait de la maladie de Parkinson et ne pouvait se déplacer seule. Les deux hommes, accusés de meurtre à caractère antisémite, comparaissent aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris. Vous y êtes pour France Inter. Bonjour Mathilde Vinceneux.
Bonjour.
Il s'agira entre autres de déterminer la part de responsabilité de chacun.
Oui, les deux accusés sont à un mètre à peine côte à côte dans le box, mais pas une fois ils ne se regardent. Ils savent que dans ce procès, ce sera la parole de l'un contre celle de l'autre. Leur version s'oppose. À gauche, Yassine Mihoub, 31 ans, lunettes et veste noire. Il fait plus vieux que son âge. Au moment des faits, je vivais un peu à droite, un peu à gauche, dit-il avec assurance pour se présenter. Et puis à droite, Alex Karim Bacuz, 25 ans, chemise bleue et un air sage. Tous les deux, on le regarde dans le vide quand le président commence la lecture des faits et raconte le corps de la vieille dame retrouvée allongée sur le lit, les jambes dans le vide, les plaies causées par les 11 coups de couteau et les brûlures. Sur le banc des parties civiles, la famille de Mireille Knoll fixe les accusés. Ils sont 5 serrés les uns contre les autres. Le petit-fils, les deux belles-filles et les deux fils. À la sortie de la salle d'audience, l'un d'eux prend la parole. Daniel Knoll explique d'une petite voix ce que nous a décrit le juge est tellement horrible. C'est très difficile aujourd'hui. Comment des êtres humains peuvent-ils faire des choses pareilles?
Mathilde Vinceneux en direct du palais de justice de Paris pour France Inter avec les moyens techniques d'Yves Lehorse. Le procès doit durer jusqu'au 10 novembre prochain. 3 policiers de la brigade anticriminalité auraient été pris pour cible hier dans le quartier de la Duchère à Lyon. Les fonctionnaires se seraient fait tirer dessus une dizaine de fois alors qu'ils surveillaient un point de deal. Un tireur est toujours recherché. Colère du ministre de l'Intérieur ce matin. Gérald Darmanin s'en prend à la mairie. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Sauf qu'en fait, on ne sait pas vraiment tout à fait ce qui s'est passé.
Pour l'instant, ce que l'on sait, c'est que les policiers de la brigade anticriminalité disent qu'ils ont essuyé au départ effectivement une dizaine de tirs avant de répliquer sur ce point de deal qu'ils surveillaient à distance. Selon nos informations, aucune douille n'a été retrouvée sur les lieux supposés des tirs, ce qui exclurait des tirs à l'arme lourde de tirs de type Kalachnikov. Les policiers ont malgré tout pu essuyer des tirs de revolver, mais aucun impact à proximité. Il y aurait donc au moins la présence d'un tireur embusqué, ce qu'a confirmé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
La réaction manifestement de la part de trafiquants qui avaient au moins une arme et qui ont tiré sur les policiers qui ont répliqué, mais dont vous avez vu que personne n'a été blessé dans cette opération. Je veux aussi déplorer, et j'ai écrit ce matin à monsieur le maire de Lyon, que dans certains quartiers où nous luttons contre les trafics de drogue, il n'y ait pas de caméras de vidéoprotection.
Et sur les caméras, voici la réponse assez sèche du maire de Lyon, Grégory Doucet.
Sur le quartier de la Duchère, il y a déjà 60 caméras d'installer. Donc on ne peut pas dire que le quartier n'est pas vidéo protégés, vidéosurveillés. Ce n'est pas vrai. Il se trouve que, pas plus tard que la semaine dernière, on avait remarqué, enfin, il m'avait fait remarquer que, ben justement, sur ce territoire-là, précisément de la Duchère, là où les faits se sont produits, il n'y avait pas de couverture de vidéoprotection. Et donc, j'ai demandé à ce qu'on déplace certaines caméras pour justement pouvoir couvrir cette petite bande de territoire.
Et le parquet de Lyon a ouvert une enquête ce matin des chefs de tentative d'homicide.
Emmanuel Leclerc pour France Inter, merci à vous. C'est un des plus vastes coups de filet à ce jour concernant le dark web, cet internet non régulé où tout s'achète et se vend en monnaie virtuelle, y compris des drogues et des armes. Europol annonce aujourd'hui 150 arrestations dans le monde entier, dans plusieurs pays, France comprise. 400 millions d'euros pour le grand âge, notamment l'aide à domicile, des médicaments mieux remboursés, contraception gratuite pour les femmes de 18 à 25 ans, 8 consultations de psychologues prises en charge par la Sécu. Voilà quelques mesures prévues pour l'année prochaine et qui seront adoptées cet après-midi par les députés dans le cadre du budget de la Sécurité sociale. Budget qui affiche un déficit en baisse, moins de 22 milliards d'euros grâce à la reprise économique. Mais budget dont une mesure est absente et cela veut dire beaucoup. Maxence Lambrecq, la réforme des retraites annoncée en 2017 par le candidat Macron n'apparaît pas dans cette loi de finances. La dernière du quinquennat est donc la dernière opportunité pour cette grande remise à plat.
En effet, c'était la dernière fenêtre législative pour tenir au moins en partie cette promesse de campagne. Il y a 15 jours, un ministre évoquait encore cette hypothèse. C'en est maintenant fini avec le vote solennel du texte cet après-midi.
Visiblement, ça n'était pas une fenêtre, c'était une meurtrière.
Le député LR Julien Aubert.
Je pense que si Emmanuel Macron, dès le départ, s'était limité à une réforme paramétrique, elle aurait été faite depuis longtemps.
La droite plaide depuis toujours pour une réforme paramétrique qui décale simplement l'âge de départ. À côté de lui, le communiste Sébastien Jumel a l'air soulagé.
Ah bah c'est la seule bonne nouvelle du PLFSS. Le combat que nous avons mené a fini par empêcher les libéraux d'aller jusqu'au bout. Mais je pense qu'Emmanuel Macron n'a renoncé à rien.
En effet, Emmanuel Macron n'a jamais enterré l'idée, mais les Français vont lui pardonner plus facilement de ne pas l'avoir fait, estime un ministre, que d'avoir créé un mouvement social juste avant la présidentielle. Le député de la majorité, Pierre-Yves Bournazel.
C'est une réforme qui doit se faire au début du prochain quinquennat, avec la légitimité du président nouvellement élu ou réélu.
Lui plaide avec Édouard Philippe pour une retraite à 65, 66, voire 67 ans. Ce sera l'un des points de tension du nouveau projet présidentiel d'Emmanuel Macron.
Et parmi les autres mesures marquantes de ce budget, certaines visent à faciliter la prise de rendez-vous et lutter contre les déserts médicaux et l'attente trop longue pour se faire soigner. Les orthoptistes, par exemple, pourraient prescrire des lunettes sans passer par la case ophtalmo. Les kinés pourraient renouveler eux-mêmes les prescriptions les concernant et c'est une expérimentation. Dans 3 régions, les infirmiers et infirmières de pratique avancée, ceux qui ont eu 2 ans de formation supplémentaire, seraient autorisés à prescrire des médicaments en première intention à des malades chroniques. Bonjour Véronique Julia.
Bonjour.
Cet amendement est censé permettre de pallier le manque de médecins, mais il provoque la colère de la profession.
Oui, ces super infirmiers ont depuis 3 ans des compétences élargies, 5 ans de formation en tout pour pouvoir assurer du dépistage, de la prévention, de la surveillance clinique, des actes techniques, mais aussi déjà des renouvellements ou adaptations d'ordonnances pour certains médicaments, des anticancéreux notamment. Ces IPA, comme on les appelle, sont amenés à être de plus en plus nombreux. 3000 en 2022, 5000 en 2024. La mesure votée va donc leur donner à titre expérimental une mission supplémentaire, prescrire sans passer préalablement par la case médecin dans certaines pathologies bien spécifiques et pour lesquelles ils et elles ont été spécifiquement formés. Évolution logique, nous dit le président de l'Ordre des infirmiers, Patrick Chamboredon.
Il faut se rendre compte qu'il y a une vraie pénurie et qu'il y a une montagne de prise en charge de besoins qui est en face de nous, des pathologies chroniques et tout ce qui est vieillissement de la population sur lesquelles il faut absolument répondre. Il y a 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. Cet élargissement des compétences pour les infirmiers de pratique avancée va justement permettre de prendre en charge ces patients-là.
Fureur des syndicats de médecins généralistes qui n'apprécient pas vraiment qu'on délègue leurs tâches à des paramédicaux. Ils estiment aussi dans cette histoire avoir été tout bonnement court-circuités. Jacques Battistoni préside le syndicat MG France.
Je voudrais rappeler que nous sommes favorables à ce qu'il y ait des IPA auprès des médecins généralistes et qu'on puisse travailler en bonne coordination. Ce qui nous choque, c'est que le gouvernement, les députés, proposent des articles de loi sans notre avis. Et ça, c'est pas acceptable.
Des médecins d'autant plus remontés que d'autres délégations de tâches, vous le disiez, ont été votées la semaine dernière aux kinés, aux orthoptistes, les syndicats, mais aussi l'ordre des médecins, contesteront évidemment les articles et amendements concernés auprès des parlementaires jusqu'au vote définitif. définitive de ce budget 2022.
Véronique Julia, spécialiste santé de France Inter, merci à vous. Au chapitre santé, encore des milliers de Français motivés pour arrêter de fumer. À ce jour, 52 000 se sont inscrits sur la plateforme de Santé publique France pour participer au mois sans tabac qui démarre le 1er novembre. Les candidats auront droit à un accompagnement personnalisé pendant tout le mois et un entretien d'aide à l'arrêt du tabac. Quand on arrête la cigarette pendant 30 jours, on multiplie par 5 les chances de cesser définitivement de fumer. L'épidémie de coronavirus reprend doucement en France. La barre des 5000 contaminations quotidiennes est franchie. Les hospitalisations et les entrées en réanimation augmentent très légèrement sur 24 heures. Situation qui justifie pour le gouvernement de prolonger la possibilité de mesures exceptionnelles. La loi vigilance sanitaire déjà adoptée à l'Assemblée arrive demain en commission devant le Sénat. On en parle avec son rapporteur au Sénat à 13h30, bien décidé à ne pas la laisser passer en l'état. Philippe Bas, sénateur Les Républicains, invité de France Inter, vos questions 01 45 24 7000. La Covid de retour aussi dans son pays d'origine. À 100 jours des JO de Pékin, la Chine décide de reconfiner 4 millions de personnes, les habitants de la ville de Lanzhou, dans le sud-ouest du pays. En cause, 29 nouveaux malades d'origine locale. Ça semble peu, mais vu le contexte, le régime chinois entend endiguer toute flambée. Correspondance à Pékin pour France Inter, Dominique André.
À un peu plus de 3 mois des Jeux Olympiques d'hiver, les autorités chinoises frappent fort à Lanzhou. Tous les quartiers de la capitale de la province du Gansu, soit 4 millions d'habitants, sont désormais verrouillés chez eux. Une seule sortie par jour est autorisée pour faire des courses ou des soins médicaux d'urgence. Badge, certificat de vaccination et QR code vert sont obligatoires. Tous les événements familiaux et rassemblements sont interdits. Les nouveaux cas de Covid-19 ne sont pas nombreux, mais la Chine pratique une politique de tolérance zéro pour enrayer la propagation de la maladie. À Pékin, où 19 cas sont recensés, les autorités ont demandé aux 21 millions d'habitants de ne pas quitter la capitale, sauf si nécessaire. Un code vert de santé est demandé pour pénétrer dans la ville, suivi d'une période d'observation médicale de 14 jours. Hong Kong s'aligne, une quarantaine de 2 à 3 semaines sera bientôt imposée à tous les visiteurs provenant de l'étranger et de Chine continentale, y compris pour les milieux d'affaires. Aucune exemption ne sera désormais acceptée. Pékin, Dominique André, France Inter.
Et aux États-Unis, des experts doivent examiner aujourd'hui le vaccin anti-Covid de Pfizer pour les 5 à 11 ans. A priori, il devrait donner le feu vert à l'injection pour les enfants. Quel avenir politique pour le Soudan ? Le pays arrêté dans sa transition démocratique par un coup d'État militaire hier. Le général Abdel Fattah al-Burhan doit s'exprimer dans les prochaines minutes pour annoncer la suite. Le coup d'État au Soudan, on y revient sur notre site, article à lire sur franceinter.fr. Plus de jeunes, plus de femmes, plus d'élus issus de l'immigration, voilà le nouveau visage du Parlement allemand suite à l'élection législative il y a un mois. Session inaugurale ce matin pour les 736 nouveaux députés. Bonjour Cyril Sauvageau.
Bonjour.
Et à leur tête, les élus ont désigné une femme, la socialiste Bärbel Bas, une présidente surprise pour le Bundestag.
Oui, l'Allemagne a seulement découvert ces derniers jours le visage de cette députée de 53 ans, originaire du bassin industriel de la Ruhr. Une femme, une élue de terrain pour diriger le Bundestag, le symbole est fort. Pourtant, ce scénario n'était pas prévu. Le poste aurait dû revenir logiquement au chef du groupe parlementaire social-démocrate, un homme, Rolf Mützenich. Mais c'est finalement la volonté de féminiser l'une des plus hautes fonctions de l'État qui l'a emporté. Le départ d'Angela Merkel et l'élection probable d'Olaf Scholz au poste de chancelier rebattent les cartes. Le SPD, désormais première force politique du pays, se veut le parti du progrès et de la parité, dans ces conditions difficiles d'afficher uniquement des hommes aux manettes. Bärbel Bas succède à un poids lourd du camp conservateur, l'ex-ministre des Finances Wolfgang Schäuble. Elle hérite, vous l'avez dit, d'un Parlement plus jeune et féminisé, même si les femmes restent sous-représentées, avec seulement un quart des députés. Si les négociations de coalition aboutissent comme prévu, la nouvelle présidente du Bundestag devra faire preuve de diplomatie pour faire travailler ensemble les députés du SPD, des Verts et des Libéraux, trois groupes parlementaires aux intérêts parfois divergents.
L'Allemagne qui revoit ses espoirs de reprise économique à la baisse pour cette année. Berlin devrait annoncer une croissance de ses richesses à 2,6% contre 3,5% prévu au départ. Et si les données confidentielles des services secrets étaient stockées sur des serveurs privés ? C'est ce qui va se passer au Royaume-Uni selon le Financial Times. Amazon aurait signé un contrat avec les MI5, MI6 entre autres. Contrat estimé entre 1,5 milliard et 1 milliard de livres. Il prévoirait toutefois que ces données ne quittent pas le pays et que le géant américain n'y ait pas accès. À l'étranger, encore nouvelle étape dans le procès de la dirigeante birmane Taïwan, Aung San Suu Kyi, démise par un coup d'État en février. L'audience s'ouvre aujourd'hui dans la capitale Naypyidaw et pour la première fois, celle que les Birmans appellent la dame pourra s'exprimer et répondre notamment aux charges de violence. Sur place, pour France Inter, Juliette Verlin.
Quelques jours après la prise de pouvoir par les militaires, un post Facebook sur la page du parti politique d'Aung San Suu Kyi, apparemment signé de sa main, dénonce le coup d'État. Sauf que la dirigeante birmane est derrière les barreaux, impossible donc pour elle d'avoir signé quoi que ce soit. Les militaires décident tout de même de l'accuser d'incitation à la violence. Pour Myo, avocat qui suit de près le déroulé du procès, cette accusation, comme tout le procès, est absurde.
Aujourd'hui, il y a 11 accusations contre elle. Donc, sa vie sera passée dans la prison ou à la maison. Enfin, c'est n'importe quoi.
La population suit de loin ce procès. Elle s'est plutôt concentrée ces derniers mois sur la répression violente de l'armée birmane contre la résistance et sur la vague de Covid-19 qui a ravagé le pays cet été. Une quasi-indifférence qui s'explique aussi par le fait que le procès se déroule à huis clos avec une difficulté supplémentaire depuis la semaine dernière.
Ils ont interdit aux avocats de parler aux médias. Depuis le coup d'État, rien n'est pas mis.
Le procès qui a commencé en juin se déroule lentement au rythme d'une audience toutes les deux semaines ou tous les mois. Pour Myo, la raison de cette lenteur est évidente.
Donc les gens ne pensent plus à ce procès parce que ça dure longtemps et qu'il faut vivre, il faut travailler.
Aung San Suu Kyi a 76 ans, une condamnation à l'un de ses 11 chefs d'accusation signerait sans doute la fin de sa carrière politique. Rangoon, Juliette Verlin, France Inter.
La Hongrie accueille aujourd'hui la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen, reçue avec plus d'égards et de protocoles qu'Éric Zemmour avant elle, assure ses amis. La patronne du RN doit en tout cas déjeuner avec l'ultra-conservateur Viktor Orban. Tous deux tiendront une conférence de presse commune cet après-midi. Une rencontre alors que la question des réfugiés continue de provoquer heurts et tensions en Europe et en France. On vous racontait ce matin sur Inter l'exemple de Briançon dans les Hautes-Alpes, ville où 500 demandeurs d'asile, surtout de jeunes Afghans, dormaient depuis dimanche dans la gare suite à la fermeture d'un refuge. Plusieurs dizaines sont partis, assure la préfecture, mais les autres ont finalement été accueillis dans une église. Nouvelle confirmée par l'évêque de Gap, Monseigneur Xavier Mal. Il est l'invité de ce journal. Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Combien de migrants dorment actuellement dans l'église de Briançon et est-ce qu'ils sont légaux ou illégaux ?
Alors, il y a eu 200 migrants qui ont dormi dans l'église de Briançon cette nuit, l'église Sainte-Catherine, qui est une église qui appartient au diocèse. Alors, ils sont légaux ou illégaux, c'est très difficile à savoir, parce que parmi eux, il y a des gens qui sont certes, enfin, ils sont certes tous entrés illégalement en France, mais certains ont la possibilité de déposer une demande d'asile, et donc, finalement, ils sont considérés comme légaux. Donc, la question n'est pas là pour nous. La question, simplement, c'est une question humanitaire. Est-ce qu'on laisse les gens dormir dehors à Briançon ? Vous savez, c'est la ville la plus haute de France. Il fait déjà largement en dessous de zéro et donc c'est pas possible de dormir dehors, tout simplement.
La préfecture accuse l'association Refuge Solidaire, celle qui a ouvert la nouvelle structure pour la refermer immédiatement samedi face à l'afflux. Pour la préfète, cette association n'est pas mandatée par l'État et elle a créé une sorte d'appel d'air. Comment vous vous positionnez ?
Alors en même temps, ils sont bien contents de l'avoir. Ils ne demandent qu'une chose actuellement, les derniers échos que j'ai de la préfecture, c'est qu'on rouvre les terrasses solidaires. Ce qui est, moi j'ai une grande admiration pour cette œuvre des terrasses solidaires qui a été possible grâce au dévouement depuis 5 ans des bénévoles sur place et depuis quelques mois, depuis 6 mois, d'un groupe d'investisseurs qui ont permis de racheter un ancien sanatorium et de s'installer là. Alors, le système de l'appel d'air, on connaît la problématique, mais la vérité, c'est qu'ils sont déjà en Italie, et croyez-moi, ils vont pas venir à Briançon parce qu'ils ont la certitude d'avoir un lit. Ils passent par Briançon parce que c'est la seule route qui est encore ouverte pour eux à travers nos hautes montagnes. Voilà. Donc, c'est pas du tout un appel d'air, c'est simplement les accueillir d'une manière digne. Simplement, il y a, au fil des mois qui se sont écoulés, il y a des hauts et des bas. Là, on est plutôt sur une période de hauts. Ce sont essentiellement des Afghans et des Iraniens. Pourquoi ça, évidemment, derrière, il y a des réseaux de passeurs. Pourquoi il y a des vagues, tout d'un coup, d'Afghans, des vagues d'Iraniens? Mais ça, c'est des questions politiques que nous, on peut pas traiter sur le terrain. Vous voyez, ni les solidaires qui sont sur le terrain, ni nous, l'Église, qui avons dû accueillir cette nuit. Ouais.
Alors, qu'est-ce que vous demandez précisément, en fait, à l'État aujourd'hui?
Eh ben, ce qu'on a demandé, ce qui semble réalisé, c'est de baisser la pression, c'est-à-dire d'autoriser ces réfugiés, ces migrants, de partir en bus. Vers les grandes villes, parce qu'en réalité, Briançon pour eux n'est qu'une étape après le passage d'école. Et ils veulent aller, d'ailleurs, ils veulent pas rester en France en réalité, ils veulent aller soit en Allemagne, soit en Grande-Bretagne, et donc de continuer. Alors il semble qu'aujourd'hui, des bus aient été mis à disposition par l'État, affrétés par la SNCF, pour les conduire à Lyon, à Valence, vers les grandes gares. Pourquoi est-ce qu'on a des difficultés depuis quelques semaines, voire quelques mois? C'est parce que la ligne de chemin de fer de Briançon vers Valence et vers Grenoble est arrêtée pour travaux, et donc on n'arrivait pas à les faire partir. Alors il y a quelques mois, déjà aux semaines, plutôt les associations eux-mêmes avaient affrété des bus. Ça n'a pas été accepté par l'État qui a arrêté les bus. Mmh. Voilà, donc en gros, il fallait faire pour baisser la pression, nous, pour pouvoir retravailler le projet des terrasses solidaires en réalité. Ouais.
Merci Monseigneur Xavier Mal, évêque de Gap. Merci de nous avoir répondu sur France Inter. C'est une exposition express qui se tient à Paris au musée du Quai Branly. Ouverture aujourd'hui, fermeture dimanche. Et pour cause, l'établissement expose 26 pièces du trésor d'Abomé, butin de guerre des troupes françaises au palais d'Abomé en 1892. 26 œuvres d'origine béninoise et qui vont ensuite repartir dans leur pays d'origine. Première restitution importante d'objets de nos collections à un pays africain. Première concrétisation d'une promesse faite par Emmanuel Macron il y a 4 ans. Bonjour Isabelle Pasquier.
Bonjour à tous.
Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Béninois attendent ce retour.
Oui, les 26 objets du trésor d'Abomé seront accueillis royalement au Bénin, sans doute autour de la mi-novembre. Ensuite, ils seront exposés début janvier dans le fort portugais d'Ouida. Ce sera en dialogue avec des artistes béninois contemporains et preuve que le peuple béninois attend ces objets. En 2006, la Fondation Zinzou a exposé une partie de ce trésor. Le succès a été incroyable. Marie-Cécile Zinzou a créé cette fondation qui joue un rôle majeur pour le patrimoine et l'art contemporain africain.
Pour une jeune génération, ça veut dire que toute l'histoire avec laquelle elle n'a pas pu se construire parce qu'elle était à 5000 km, tout à coup va être accessible. Et ça nous ramène à ce qui s'est passé en 2006 quand le Quai Branly a prêté les objets au Bénin. On a eu une fréquentation d'exposition exceptionnelle. C'est-à-dire que dans un pays de 10 millions d'habitants, on a eu 275 000 personnes qui sont venues voir ces œuvres. Ça dit la soif de culture, la soif de patrimoine. Et donc le retour de ces œuvres, ça va être un événement totalement historique au Bénin.
Les objets du trésor d'Abomé rejoindront le futur musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey qui sera construit à Abomé. Enfin, juste un rappel, 85 à 90% du patrimoine africain se trouve aujourd'hui hors du continent. En France, nous gardons environ 88 000 objets d'Afrique subsaharienne dont la moitié a été pillée durant la colonisation. Le Bénin ne va pas retrouver tout son patrimoine. L'iconique sculpture dédiée au dieu Gou, chef-d'œuvre africain, va rester au Louvre.
Isabelle Pasquier pour France Inter, merci à vous. Construire ou non 6 nouveaux réacteurs nucléaires EPR en France? La question est entre les mains du gouvernement après le rapport hier du gestionnaire du réseau électrique sur notre avenir énergétique. La décision sera prise rapidement, a promis ce matin sur Inter la ministre de la Transition énergétique, Barbara Pompili, invitée de la matinale, qui n'a pas mâché ses mots en direction de son ex-camarade écologiste Yannick Jadot. Le candidat à la présidentielle dénonçait, lui, une manipulation du gouvernement dans la façon de présenter les scénarios d'avenir. RTE expliquant notamment qu'il est moins cher de garder une part de nucléaire. Réponse de Barbara Pompili.
Je trouve ça complètement honteux qu'il parle de manipulation. On est à la limite du complotisme. Je trouve que quelqu'un qui se présente à l'élection présidentielle ne devrait pas réagir comme ça. On a un rapport qui a été fait par une entité indépendante pendant 2 ans. Ce qu'il est en train de faire, c'est simplement parce que ce rapport remet en cause ses convictions, eh bien c'est de dénoncer le messager plutôt que de regarder le message. C'est très grave qu'il débatte du fond du rapport. Il y a des questions dont on peut débattre, notamment sur la sobriété, mais qu'il ne verse pas dans quelque chose que je trouve pas au niveau d'un candidat à la présidentielle.
Barbara Pompili sur France Inter ce matin. Quand le succès d'un Américain de la Silicon Valley dynamise la bourse parisienne, les valeurs automobiles marchaient bien ce matin après le triomphe aux États-Unis du constructeur auto Tesla. Le groupe d'Elon Musk a franchi la barre des 1000 milliards de dollars de valorisation à Wall Street après une méga commande du loueur Hertz. Ça ne permettra pas forcément de se payer une Tesla, mais les salaires vont grimper. C'est en tout cas ce que dit le patron du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux. Il assure qu'il y a en ce moment des négociations salariales à peu près partout et qu'une majorité de salariés verra son revenu augmenter. C'est l'automne et malgré la pénurie de papier, les prix littéraires tombent comme les feuilles des arbres. Hier, prix Fémina remis à Clara Dupont-Monod qui anime Livre et Châtiment sur France Inter. Aujourd'hui, place au prix Médicis. Bonjour Ilana Mor-Youssef.
Bonjour.
En direct de la place de l'Odéon à Paris, prix remis à Christine Angot pour Le Voyage dans l'Est.
Oui, c'est un moment incroyable et à la fois déroutant, plein d'émotions qu'on vient de vivre ici. D'abord l'arrivée de Christine Angot avec ses éditrices. Tout le monde comprend que c'est elle, mais rien ne se passe, personne ne peut rien dire puisque rien n'a été proclamé. Puis enfin, au bout de 10 minutes d'attente, la proclamation et l'émotion de Christine Angot récompensée pour Le Voyage dans l'Est, paru aux éditions Flammarion.
Merci. Vraiment. Vraiment, vraiment. Ça compte. À ce point-là, en fait. Et pour ce livre, merci. C'est très important pour moi.
C'est important pour nous aussi, pour le jury Médicis.
Voilà, premier grand prix d'automne pour Christine Angot qui signait Le Voyage dans l'Est, son livre peut-être le plus abouti, encore une fois sur le thème de l'inceste. Angot enfin récompensée après des années à avoir été moquée et tournée en ridicule. Un instant encore pour vous dire que le prix Médicis étranger est attribué à l'écrivain suédois Jonas Hassen Kemiri pour La clause paternelle, traduit par Marianne Segol-Samois chez Actes Sud, et le prix de l'essai est attribué à Yakuta Alika Vazovic pour Comme un ciel en nous, paru aux éditions Stock.
Ilana Mor-Youssef en direct de la place de l'Odéon à Paris pour France Inter avec Sandrine Malon pour la liaison technique. Toute autre forme d'art, si on peut dire, que cette fresque qui fait polémique au CHU de Toulouse. 3 mètres sur 1,50 mètre de peinture inspirée de la liberté guidant le peuple de Delacroix. Sauf que le tableau est peuplé d'hommes et femmes nus, parfois à quatre pattes ou dans des postures pornographiques, et la fresque recouvre tout un mur de la cantine de l'internat depuis quelques semaines. À la demande des associations et syndicats, le CHU exige que la fresque soit décrochée, mais Justine Clos, pour le moment, le décor est toujours là.
En tout cas, cette fresque ne coupe pas l'appétit des jeunes internes. Gauthier déjeune devant la peinture tous les midis et il l'assure, c'est juste de l'humour.
Moi, je pense que ça fait partie du folklore médecine, que c'était à la base des représentations humoristiques des chefs. C'est aussi pour garder une sorte d'humanité, décrocher un petit peu de l'image très sérieuse que l'on a de l'hôpital et des médecins en particulier.
Pour Cassandre aussi, interne en gynécologie, ça n'a rien de sexiste, c'est simplement la tradition.
Je peux comprendre que ça dérange, mais je pense que nous, ça fait partie de la culture carabin. Moi, je trouve pas ça spécialement sexiste. Les hommes sont bien plus humiliés que les femmes sur cette fresque, croyez-moi.
Mais cette tradition n'est pas du goût d'oser le féminisme. Frédéric Groom, militante pour l'association, dénonce une fresque sexiste et humiliante.
Je pense que présenter une femme à quatre pattes en train de manger des ordures, c'est absolument dégradant pour l'image de la femme.
Et c'est loin d'être une première. Il y a 3 ans, un autre dessin avait suscité l'indignation avant d'être décroché. C'est ce que demande à nouveau Isabelle Pronot du syndicat Sud à la direction.
Nous, ce que nous voulons, c'est que ça se reproduise plus. On ne veut pas tous les 3 ans ou tous les 4 ans recommencer, quoi.
Le syndicat veut aussi inscrire l'interdiction de ce type d'affichage dans le règlement intérieur de l'hôpital.
Reportage France Bleu Occitanie. Et puis là, pas de pornographie, mais de l'amour. Le mot amour qui apparaît en creux sur fond des temps nocturnes. Le tableau s'appelle L'art de la conversation. Il est signé Magritte et sera en vente aujourd'hui chez Sotheby's, prix estimé 12 millions d'euros. Allez, dans un instant, l'invité de France Inter et le sénateur Philippe Bas, opposé à la prolongation du pass sanitaire jusqu'à fin juillet. Vos questions 01 45 24 7000.
La France mutualiste.
Quelle est la capitale du Bénin ?
Porto Novo.
Trop fort, papa. Et si je te demande un placement souple et fiscalement avantageux, qu'est-ce que tu me conseilles ?
La France mutualiste.
La France mutualiste ?
Oui, avec le plan d'épargne retraite de la France mutualiste, l'épargne est même disponible en cas de coup dur. Et c'est jamais trop tôt pour préparer sa retraite.
T'as vraiment réponse à tout.
Vous aussi, découvrez tous les avantages du plan d'épargne retraite LFM Perform sur lafrancemutualiste.fr. La France mutualiste, l'assurance d'un esprit de famille.
La France mutualiste.
Groupe La France mutualiste, mutuelle et intermédiaire d'assurance enregistrée à Lauriaz.
France Inter aime.
As you know by now, we have kidnapped your son.
The French Dispatch, le nouveau film de Wes Anderson où différentes histoires publiées dans un magazine américain édité en France.
Hello. Shut up.
Retrouvez tout l'univers de Wes Anderson avec Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Frances McDormand, Léa Seydoux, Timothée Chalamet, Mathieu Amalric, Hippolyte Girardot et Bill Murray.
Yes, it is. No, it is.
Yes, it is.
No, it is.
Yes.
Le 27 octobre au cinéma, un film France Inter.
Un coup d'œil au ciel de votre mardi.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir vos véhicules. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, les experts Euromaster sont partout au service de votre sécurité.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Nuages au nord, soleil dans le sud-est.
Oui, autour de la Méditerranée, c'est du soleil au prix du vent, jusqu'à 50 à 70 km à l'heure pour la Tramontane et pour le Mistral. Et puis sur la plupart des régions ailleurs, les nuages se morcellent doucement, ils laissent passer un peu de soleil. De la Bretagne vers Poitou-Charentes, le Massif central, la Franche-Comté, l'Alsace, Rhône-Alpes et le Sud-Ouest, elles vont devenir belles ces éclaircies dans l'après-midi. Sur les régions plus au nord, là les éclaircies vont rester timides, en particulier des côtes de la Manche vers les Hauts-de-France et les Ardennes, où quelques pluies ne sont pas exclues sous les nuages les plus épais. Et puis les températures reste un peu au-dessus des moyennes de saison, malgré une petite baisse. 14 degrés à Nancy, 15 à Lille et Dijon, 16 au Havre et à Paris, 18 à Brest, Grenoble, Toulouse, Bayonne, 21 degrés à Marseille et 23 à Sète. Et puis demain, à nouveau de la grisaille le matin, mais ce sera du soleil pour l'après-midi.
Merci Elodie Calac de Météo France. Il est 13h30 sur France Inter.
Le 13-14. Marion Loup.
On ne souhaite pas prolonger le pass sanitaire, on souhaite s'en débarrasser le plus vite possible. Ces mots sont ceux récemment du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Autrement dit, le pass sanitaire n'est pas la solution idéale. Mais Gabriel Attal ajoute, ce qu'on souhaite prolonger, c'est la possibilité d'y recourir. Pas la solution idéale donc, mais la seule disponible selon l'exécutif face à l'épidémie de Covid et sa légère reprise. Un peu plus de 5000 contaminations par jour et une hausse à nouveau du nombre de patients Covid hospitalisés. D'où la loi sur la vigilance sanitaire déjà adoptée à l'Assemblée. Elle prévoit la prolongation du pass jusqu'à fin juillet et arrive en commission au Sénat demain. Son rapporteur est l'invité du 13-14 aujourd'hui. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Sénateur LR de la Manche, vos questions, chers auditeurs, 01 45 24 7000. Philippe Bas, vous allez proposer plusieurs amendements, hein, notamment pour limiter la prolongation possible du pass et des mesures d'exception au 28 février. Pourquoi ?
Tout simplement parce qu'il s'agit de restrictions à nos libertés constitutionnelles et que si ces restrictions sont réellement nécessaires, utiles, nous sommes prêts à les accepter. Mais nous voulons pouvoir apprécier au nom des Français, nous sommes la représentation nationale, quand il s'agit de choses aussi graves, on ne donne pas les pleins pouvoirs pendant 8 mois et demi, on ne les a jamais donnés d'ailleurs, et nous avons voté au mois de juillet la loi qui porte le nom de loi du 5 août, pour 3 mois et demi, et nous sommes prêts à envisager le maintien des outils nécessaires pour la lutte contre le Covid, car il ne faut surtout pas baisser la garde, je crois qu'il faut être responsable, mais dans des conditions rigoureuses, en veillant strictement à la proportionnalité des mesures par rapport aux objectifs de sécurité sanitaire, et pour une durée limitée, s'il faut ensuite poser la question d'un prolongement, mais le Parlement est là.
En clair, à ce stade, vous ne voulez pas enjamber la présidentielle ?
Non, ça je crois que d'ailleurs personne ne sait qui sera président de la République et on va pas, ni Premier ministre ni ministre de la Santé après le mois de mai, on ne va pas donner des pouvoirs à un gouvernement qu'on ne connaît pas on ne va pas non plus donner des pouvoirs qui seraient en quelque sorte une remise en cause de l'équilibre entre la représentation nationale et l'exécutif. L'exécutif ne doit pas prendre ses décisions tout seul, il s'agit non seulement de notre sécurité face au Covid, mais il s'agit aussi de nos libertés. Il faut trouver le bon équilibre et le Sénat estime que, au fond, c'est son rôle d'assemblée essaye toujours de mettre un peu de sagesse dans le débat public que de trouver ce point d'équilibre.
Mais Philippe Bas, l'argument de l'exécutif notamment, c'est de dire ce débat sur la prolongation ou non du pass sanitaire à quelques mois, quelques semaines du scrutin présidentiel risquerait de parasiter le débat parce que la priorité des Français, c'est le pouvoir d'achat, c'est la sécurité, ça sera pas forcément de savoir si on prolonge le pass ou pas. Ça risque un peu d'arriver comme un parasite dans le débat.
Oui, enfin, bon, si le gouvernement fait de la politique, ça le regarde sur le sujet. Moi, je vous parle en responsabilité, je vous parle de nos institutions démocratiques et républicaines. On ne fait pas de chèque en blanc, on ne doit pas en faire. Et les arguments politiques qu'on pourrait opposer à notre position ne sont pas à la hauteur de cette exigence démocratique. Donc je crois que là, il faut savoir dans la hiérarchie des arguments lequel on privilégie.
Mais la mesure, elle n'est pas passée dans les mœurs. Finalement, on ne s'est pas habitué au pass sanitaire. Il n'est plus très contesté. On voit les
manifestations. Alors c'est très intéressant l'expression que vous utilisez, passer dans les mœurs. Faudrait-il donc la maintenir éternellement puisqu'elle est passée dans les mœurs ? Je ne crois pas. Justement, c'est là le danger, c'est l'accoutumance. Et je suis d'accord pour maintenir la mesure dans les départements où on n'est pas assez vacciné, vaccinés, mettons ceux où moins de 75% de la population a été vaccinée. Et je pense aussi à nos compatriotes d'outre-mer dont la situation à l'égard du Covid est très préoccupante aujourd'hui encore. Certains départements français également sur le territoire métropolitain. Donc on ne doit pas abandonner complètement l'instrument, mais je crois que là où il n'est plus utile, pourquoi imposer la contrainte aux gens de continuer à le présenter, même s'ils ont, comme vous le dites, justement pris l'habitude, ils se sont accommodés de l'instrument et ils ont été rassurés par l'instrument. Mais le conseil scientifique nous dit l'intérêt de l'instrument, c'était que les Français se vaccinent, et il dit aussi que cet objectif a été largement atteint, même s'il faut continuer. Hein. Il y a encore environ 2 millions de Français qu'on pourrait rejoindre pour que on les convainque de se vacciner. Donc il faut continuer. Mais à partir du moment où le pass a rempli l'essentiel de son objectif, alors dans le cadre de notre contrôle de proportionnalité, dans le cadre de l'adaptation des outils à la réalité de la crise sanitaire, nous disons, ne maintenons pas le pass partout, et là où nous permettons au gouvernement de le maintenir s'il est nécessaire, seulement jusqu'au 28 février, sauf vote, nouveau vote du Parlement au mois de février prochain.
Qui renouvellerait cette autorisation. Question de Suzanne au Standard de France Inter. Bonjour Suzanne.
Oui, bonjour. Bonjour à tous. Je pose ma question.
Votre question, alors, Monsieur Bas, effectivement.
Oui. Voilà. Comment accepter la prolongation du pass sanitaire alors qu'il ne sera pas exigé pour les meetings politiques et qu'il l'est pour nos ados qui veulent faire du sport et des activités culturelles ?
La réponse de Philippe Bas.
Oui, je vous signale, madame, que jamais le pass sanitaire n'a été exigé pour les meetings politique, y compris pendant la campagne des régionales, des départementales, voire des municipales. Et je vous indique aussi que la position que nous allons prendre, je l'espère, sur ma proposition au Sénat, ne prévoit pas de pass sanitaire non plus dans les salles de spectacle, alors qu'il est imposé aujourd'hui, ce qui n'empêchera pas d'ailleurs de recommander, en fonction de l'état de l'épidémie, le port du masque. Mais aujourd'hui, nous avons les vaccins, nous avons le gel hydroalcoolique, nous avons les masques, nous avons le télétravail pour éviter de trop s'exposer. Nous voyons arriver les premiers médicaments et nous considérons donc qu'on doit adapter les mesures de contrainte à un contexte sanitaire qui n'est pas totalement rassurant. Il y a un frémissement à la hausse, mais qui est quand même bien meilleur, avec des personnes qui sont vaccinées et qui, du fait de leur vaccin, si elles attrapent le virus, n'auront pas les formes les plus graves. Donc, on doit sans arrêt s'adapter à la situation sanitaire et on ne doit pas laisser au gouvernement des instruments dont il n'aurait plus besoin.
C'est tout de même l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Vous avez l'espoir d'être entendu, Philippe Bas ?
Mais nous l'avons toujours été, puisque nous en sommes, figurez-vous, à la 11e loi. Et nous avons participé au travail législatif à notre place de Sénat. Puis nous avons eu ce qu'on appelle les commissions mixtes paritaires, 7 députés, 7 sénateurs qui essayent de s'entendre. Et moi, ma disposition d'esprit est toujours la même, c'est de convaincre et de faire en sorte qu'on aboutisse à un accord. Car notre responsabilité à tous est engagée vis-à-vis des Français, non seulement pour lutter contre la crise sanitaire, mais aussi pour défendre notre démocratie et nos libertés. D'où le rôle du Parlement.
Quid de l'intégration d'une troisième dose dans ce passe qui pourrait, en tout cas que le ministre de la Santé n'écarte pas.
Nous avons auditionné le ministre de la Santé ce matin et nous lui avons bien sûr posé cette question parce que nous savons qu'au fil des mois, la protection due au vaccin diminue. Et par conséquent, l'idée de la troisième dose est déjà mise en œuvre pour les personnes les plus vulnérables et la question se pose de savoir si on doit l'étendre ou pas. Nous attendons, comme le ministre qui a sollicité cet avis, l'avis des instances scientifiques de la santé publique avant de nous prononcer.
Mais vous seriez prêt, vous ne fermez pas la porte en tout
nous
cas.
Ne fermons pas la porte, nous sommes raisonnables et nous cherchons à faire en sorte que les Français soient bien protégés sans pour autant aller trop loin dans la contrainte, évidemment, je le répète parce que c'est ça vraiment pour nous la ligne de crête dont il ne faut pas s'écarter. Et c'est l'attitude que nous avons toujours eue. Nous pouvons consentir des pouvoirs exceptionnels, mais pour une durée limitée, qui impose au gouvernement de revenir devant le Parlement pour le convaincre qu'il faut continuer à aller de l'avant.
On a bien compris votre message sur le sujet, Philippe Bas. Je voulais parler d'un autre sujet avec vous, parce que vous êtes sénateur de la Manche, qui est un territoire de nucléaire, avec la centrale de Flamanville, avec l'usine de retraitement de la Hague. Qu'est-ce que vous avez pensé des six scénarios du gestionnaire du réseau électrique hier sur notre avenir énergétique?
Je vais vous dire que les départements de la Manche, qui est l'un des plus beaux de France, j'espère que vous le connaissez.
C'est votre avis en tout cas.
Département de bocage et de littoral, avec 365 km de côte, et non seulement un département du nucléaire, mais aussi un département des énergies renouvelables. Nous fabriquons les pales d'éoliennes en mer, par exemple. Nous développons les véhicules à hydrogène. Mais, puisque vous me posez la question du nucléaire, c'est chez nous que le premier réacteur de la nouvelle génération, l'EPR, est en train de s'achever.
Et donc
Et nous considérons que c'est le bon modèle pour l'avenir, car ça permet de développer une énergie non carbonée. Et le sujet écologique majeur d'aujourd'hui est nouveau depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, pas si nouveau que ça à vrai dire, mais enfin, le sujet d'actualité, c'est le réchauffement climatique. Le nucléaire est un moyen de lutter contre le réchauffement climatique tout en fournissant à nos entreprises et aux ménages une énergie qui est à meilleur marché que l'énergie du pétrole
Donc, l'énergie,
ou du gaz.
L'énergie renouvelable est insuffisante d'après vous, même si vous êtes aussi territoire d'énergie renouvelable.
Elle est également intermittente.
Est-ce qu'il y a un scénario qui prévoit
ça? Elle est intermittente et donc elle ne permet pas à cette énergie-là d'assurer la couverture des besoins dans la continuité. Et elle entraînerait, par exemple, en hiver, de graves dangers de rupture de l'approvisionnement en électricité.
C'est pas tout à fait ce que dit RTE. Ils disent en revanche que ça coûterait plus cher.
Mais c'est certain que ça coûterait plus cher aussi.
Et donc, est-ce qu'il faut les construire, ces six EPR que réclame EDF et sur lesquels le gouvernement doit prendre une décision prochainement?
Il faut bien évidemment les construire. Ce quinquennat a mal commencé avec la fermeture de Fessenheim, parce qu'il faut aussi assurer la jonction entre l'énergie nucléaire d'aujourd'hui et l'énergie nucléaire du futur. Et donc, il faut prolonger la durée de vie des centrales nucléaires existantes, ce qui suppose de gros investissements. Ces investissements n'ont pas été faits au cours des dernières années. Il faut rattraper le retard qui s'est accumulé au cours des dernières années et aller de l'avant dans l'intérêt national.
Parlons politique maintenant, Philippe Bas. Vous présidez l'instance de contrôle du choix du candidat à droite et on voit toujours les adhésions du parti Les Républicains qui grimpent ou pas?
Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs tout à fait heureux. Ça prouve la vitalité du mouvement et le désir de beaucoup de Français qui se sentent proches du mouvement de participer au débat. Je n'ai pas les derniers chiffres.
On disait 16 000 en un mois, mais vous n'avez pas les derniers décomptes.
Oui, alors je suis persuadé qu'on atteindra les 100 000 avant la date limite qui est fixée au 16 novembre. Les gens ont encore le temps de s'inscrire. Je les invite vivement à s'inscrire. En ce qui me concerne, je préside en effet l'instance de contrôle. Donc, je vérifie à la fois validité des inscriptions. Je vérifie que les candidatures remplissent toutes les conditions.
Vous êtes l'arbitre, en clair.
Et je vérifierai aussi, dans l'intérêt de la démocratie interne à notre famille politique, les résultats du scrutin qui doit avoir lieu des 2 au 4 décembre prochain.
Question de Michel au Standard de France Inter. Bonjour Michel.
Oui, bonjour France Inter, merci pour vos émissions. Monsieur Bas, bonjour.
Bonjour.
Le groupe Les Républicains au Sénat prétend être un parangon de la liberté en s'opposant au pass sanitaire. C'est ce que vous venez de développer. J'ai une question un peu polémique à vous poser. Que pensez-vous de la déclaration du président du Sénat, monsieur Gérard Larcher, membre du Parti Les Républicains, à propos d'Éric Zemmour, qui a dit que ce dernier n'était pas raciste? C'est une déclaration qui a été faite il y a quelques jours, alors que le dénommé Éric Zemmour a été déjà, sauf erreur de ma part, condamné à 2 reprises pour incitation à la haine raciale. Je voudrais que vous nous éclairiez sur cette question et sur la position des Républicains, parce que j'avoue que,
personnellement, vous
comprenez pas. Étant un démocrate sincère
Merci.
Depuis de nombreuses années, je
Merci
suis très
Michel. On a compris votre question. Réponse très rapide de Philippe Bas, s'il vous plaît.
Mais les Républicains ne choisissent pas Zemmour, ils choisissent leur propre candidat. Quant aux propos de M. Zemmour, je ne les approuve pas. Vous vouliez que ce soit bref, Celle-là était.
Et c'est bref et c'est très clair. Philippe Bas, sénateur LR de la Manche, rapporteur du projet de loi vigilance sanitaire au Sénat. Première lecture jeudi 4 novembre, mais en commission dès demain. Merci d'être venu sur France Inter.
Merci à vous.
France Inter, le 13-14.
13h44 sur France Inter à suivre. Deuxième épisode de notre feuilleton dans les marais salants de l'île de Ré où l'on comprend le renouveau sur l'île du métier de saunier. Le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Marion.
Aujourd'hui dans votre chronique, deux nageurs pas du tout synchronisés.
Oui, puisqu'on a un arbitre, Philippe Bas. Je vais parler de sport, deux nageurs de l'époque de l'occupation.
Rendez-vous juste avant 14h, mais tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Aurélie Sfez.
Bonjour Marion.
Aujourd'hui, vous donnez la parole à deux sœurs, Eva et Donna Nasseri, sont musiciennes françaises d'origine afghane. Dans leur pays, la musique n'a plus droit de cité, ni dans les rues, ni dans les écoles. Vous avez entendu ces deux sœurs jouer dans une église parisienne et vous leur avez tendu votre micro.
Oui, je passais par là, dans le 11e arrondissement, et j'ai vu Eva et Donna qui étaient assises, radieuses, avec leurs instruments afghans dans les bras. Les sœurs musiciennes ne sont pas professionnelles. Elles vous murmurent une ritournelle d'amour pour un pays qui n'entend plus chanter son peuple depuis le retour des talibans. Alors Eva et Donna veulent transmettre d'urgence leur musique et leur culture partout. Eva joue des percussions et Donna du roubab, c'est l'équivalent du luth afghan.
Je suis tombée amoureuse de cet instrument, déjà parce que j'adore la nacre et le son. J'en joue depuis presque 5 ans.
Et vous, Eva, vous jouez du zerbagali?
C'est un instrument de percussion qui se place sous le bras et on en joue comme ça. Nos deux parents sont d'origine afghane. Ils ont quitté l'Afghanistan il y a 40 ans au moment de l'invasion soviétique. Et mon père est un passionné de musique traditionnelle afghane et il a essayé de nous transmettre tout ce qu'il en savait. Nos racines, c'est l'Afghanistan. Et où qu'on soit, en fait, ça nous suit.
وطن عشق تو افتخارم وطن در رهب جان نثارم وطن عشق تو افتخارم وطن در رهب جان نثارم وطن خاک پاکت بهشتم وطن گل خنت را لزارم.
C'est une chanson qui est intitulée Watan Eshkretu Eftekharam et qui signifie pays natal, ton amour est ma fierté. Par exemple, dans l'une des strophes qu'on a chantées, on dit « Patrie, où que je sois, tu es mon énergie, mon pays ». Et en fait, je pense qu'on s'y retrouve un peu, Donna et moi.
Et puis on a aussi choisi cette chanson parce que notre père nous la chantait, on la chantait tous ensemble, en chœur, en fait, dans ces réunions de famille, justement.
Il nous a toujours dit « Votre Watan, votre patrie, c'est l'Afghanistan, mais c'est la France ». On est française, on est afghane, mais pleinement les deux.
Musicien menacé, tué, instrument brûlé, école de musique fermée, radio bâillonnée. Plus une note de musique ne résonne en Afghanistan, Aurélie.
Oui, Marion et Eva me disaient en micro, un pays sans musique, c'est un pays qui meurt. Et comme dans les années 90, les musiciens sont aujourd'hui obligés de fuir, alors qu'ils avaient mis 30 ans à essayer de reconstruire des lieux pour faire vivre ce patrimoine musical fragile et précieux.
La musique traditionnelle afghane qu'on joue et qu'on a apprise, elle est habituellement pas jouée par des filles. Mais ces dernières années, en Afghanistan, dans la société afghane, on a pu observer beaucoup d'avancées. Il y a eu notamment un orchestre composé uniquement de femmes qui a fait le tour de nombreux pays. Il y a eu des écoles de musique mixte.
D'ailleurs, Eva, vous avez ramené ces instruments de musique d'Afghanistan.
La musique, il y en a toujours eu en Afghanistan. Les instruments dont on joue, c'est vraiment des instruments traditionnels qui sont joués depuis des centaines d'années.
En ce moment, dans les écoles de musique, on brûle les instruments.
C'est ça, les talibans ont annoncé que la musique était interdite à partir de maintenant. Contraire à la charia, donc à la loi islamique.
C'est un acte politique de jouer de la musique aujourd'hui pour vous ?
C'est un acte politique, c'est un devoir. Il y a des tas de musiciens, de chanteuses, de chanteurs qui sont privés de ce plaisir qu'est de jouer la musique afghane. Nous, on peut le faire et beaucoup de gens sont intéressés de la découvrir. Donc, on se doit en fait de la maintenir en vie et de jouer pour tous ceux qui ne peuvent plus.
Les sœurs Eva et Donna Nasseri à votre micro, Aurélie, et ce chant d'amour pour l'Afghanistan. Vous les aviez rencontrées lors d'un concert de soutien aux musiciennes afghanes?
Oui, c'est ça, avec l'aide de l'association Afran pour l'accès à l'éducation. Et si vous voulez soutenir l'association, n'hésitez pas à aller sur leur site, c'est facile, afran.org.
Merci Aurélie, à demain.
À demain Marion.
13h49 sur Inter, suite de notre périple dans les marais salants de l'île de Ré. Une semaine à la rencontre de ceux qui y travaillent, des vieux rétés aux derniers arrivés reconvertis. Aujourd'hui, nous retrouvons la saunière Michèle Jambard au bord de ses aires sonnantes, ses bassins de récolte à l'entrée d'Arsan-Ré, ville connue pour son célèbre clocher noir et blanc. Mais une autre couleur apparaît dans ce décor, c'est le rose.
Là, vous avez mis donc le gros sel en tas. Devant chaque aire sonnante, il y en a combien à peu près là devant nous?
C'est difficile hein, d'estimer. Ce qui est sorti ce matin, donc il fait un temps gris depuis plusieurs jours, on a des petites averses, etc. Donc les tas sont pas forcément aussi gros que la normale, mais là, devant nous, il y a 35 kilos, 40 kilos, je pense pas plus. C'est la récolte de deux jours.
Et le bassin, après, l'eau a pris une légère couleur rose.
C'est parce que c'est un marais de filles. En fait, la couleur rose qu'on voit dans les marais salants à l'île de Ré est due à une micro-algue qu'on appelle la Dunaliella salina, qui rosit en fait de plaisir avec la salinité. À l'île de Ré, les marais ont été construits à partir du Xe siècle. Donc, c'est des terrains qui ont été gagnés sur la mer comme ça progressivement, comme des polders. Et à partir du début du XXe siècle, l'activité a commencé à décliner pour différentes raisons. Il y a eu les guerres. Par exemple, à Ars, pendant la guerre de 14-18, il y a eu 300 hommes qui sont partis. Il y a eu le développement des techniques de conservation par le froid qui ont rendu le sel un peu inutile ou en tout cas peu rentable. Tout ça a fait que l'activité a décliné tout au long du 20e et on est passé d'environ 1000 familles de sauniers au milieu du 19e à une cinquantaine de sauniers seulement dans les années 80. Et en 88, le pont de l'île de Ré a été construit. Et à partir de là, les différents élus, la Chambre d'agriculture et la coopérative des sauniers de l'île de Ré ont mis en place un programme de relance, en fait, qui ont permis à des jeunes de partir en formation en Loire-Atlantique. Et à partir de 92-95, il y a une quarantaine de nouveaux sauniers qui se sont installés et qui ont permis de rajeunir l'activité. Donc, on peut considérer que l'activité aujourd'hui est sauvée. Et puis, une centaine de sauniers sur l'île de Ré, c'est bien comme chiffre pour permettre à tout le monde d'en vivre. Moi, je suis à moitié originaire de l'île de Ré, donc par ma mère. Je suis née à La Rochelle, je suis géographe de formation. Et en fait, il a fallu que je fasse un parcours sinueux pour arriver à m'installer. J'ai voulu suivre la formation qui existe en Loire-Atlantique, à côté de Guérande, là, à La Turballe. Et donc, j'ai fait le stage, et c'était en 2003, l'année de la canicule. On m'avait prêté un marais salant à remettre en état. Ça s'est bien passé, même si c'était compliqué pour moi, parce que j'avais jamais touché une pelle de ma vie. Je suis installée depuis 2003, mais j'ai fait une pause, donc là je me réinstalle, on va dire. Et du coup, je reprends un marais salant qui est pas complètement en bon état. Donc l'hiver, c'est la période des chantiers de remise en état. Donc on profite des mois justement de calme, etc., pour reconstruire les bassins, reconstruire les chemins, améliorer le circuit d'eau, etc. Enfin voilà, ça se fait pendant les mois d'hiver. Certains partent voyager aussi, enfin voilà, profitent de longues vacances hivernales pour sortir d'ici. Et puis après, on reprend vraiment le chemin du marais au printemps pour le nettoyer, donc vider enlever les algues, enlever la vase qui s'est accumulée dans le fond, parce que tout est fait en argile. Ça vit, ça évolue, ça bouge, etc. Donc tous les printemps, on entretient les marais en refaçonnant les chemins si besoin, en poussant la vase du fond des bassins. Et les anciens nous apprennent à être prêts au 15 mai. Parce qu'à partir du 15 mai, normalement, les journées sont plus longues, plus chaudes, etc. Et le marais doit être prêt au 15 mai pour pouvoir faire du sel mi-juin. C'est la théorie.
Une semaine dans les marais salants de l'île de Ré. Le feuilleton continue demain au micro de Sarah Guibaudot. Nous y rencontrerons deux anciens, justement, les doyens des sauniers dans le village d'Ars-en-Ré.
France Inter. Le 13-14.
À 13h54 sur Inter, on se jette dans le vif de l'histoire, l'actualité à la loupe de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Marion.
Yves Pourchet a écrit sur le collaborationnisme, le collaborationniste Pierre Laval et sa famille en 2002. Et depuis, ce professeur de sciences politiques, happé par cette époque, fait des livres d'histoire comme des romans. Le dernier, sous-titré « Roman d'un collabo », suit les mouvements d'un champion des bassins cartonné, titulaire de plusieurs records de natation avant-guerre.
Et si on se jetait, pour reprendre votre expression, vers la fin de l'histoire, ou presque. Janvier 1945, il y a un autre protagoniste qu'il faut présenter à côté de Cartonnet, c'est Alfred Nakache. Né en 1915, il a 4 ans de moins que Cartonnet, ça compte en natation. C'est le benjamin d'une famille juive, de 15 enfants de Constantine, et c'est lui qui rafle maintenant les records d'Europe, du monde, d'autant qu'il n'hésite pas à pratiquer la brasse papillon que Cartonnet ne juge pas orthodoxe et qui a été introduite par les soviétiques. Mais en janvier 45, pour l'heure, Nakache est déporté. Il a été surnommé par les gardiens d'Auschwitz le nageur d'Auschwitz. Ces gardiens s'amusaient à l'humilier en le faisant par exemple chercher avec les dents un couteau jeté au fond d'un bassin. À cette même date, janvier 45, Jacques Cartonnet, lui, est réfugié à Sigmaringen, avec un titre assez ronflant. Il est vaguement commissaire au sport du gouvernement collaborationniste en exil. Et on l'entend parfois sur le poste « Ici la France » évoquer ses lointains exploits et en appeler à la régénération, puisqu'il est bien connu que les dictatures se distinguent par leur supériorité physique.
Bien sûr, un peu plus tôt, Cartonnet et Nakache vivaient repliés dans la même ville, Toulouse.
Là où enseigne Pourchet, Toulouse, après la défaite, avait aspiré une bonne partie de la natation française à cause de ses équipements et de ses clubs. Cartonnet avait rejoint le plus petit d'entre eux, le Racing Olympique, et Nakache le plus dynamique, les Dauphins. Les deux hommes ne fréquentaient pas les mêmes cercles. Avant-guerre, Cartonnet s'était rapproché de Doriot, le maire communiste devenu fasciste de Saint-Denis, qui y avait édifié d'ailleurs une belle piscine. Il écrivait dans le journal de son parti, le PPF, comme dans Je suis partout. Mais Nakache n'avait pas eu maille à partir avec lui, parce que jusqu'en 1943, son palmarès l'avait protégé, le commissariat général au sport de Vichy l'avait emmené en tournée, les actualités cinématographiques lui rendaient régulièrement hommage.
Jusqu'en août 1943, hein, vous le disiez, date décisive dans l'histoire des deux champions.
Oui, alors la France est maintenant tout entière occupée et la Fédération française de natation a imaginé de réunir les athlètes que la ligne de démarcation avait séparés pour un grand critérium mi-août 1943. Mais les autorités allemandes interdisent la participation de Nakache. Et les compétiteurs de son club, les Dauphins, décident de boycotter les épreuves et leurs dirigeants aussi, ce qui est un acte de courage exceptionnel à l'époque. Tandis que cette année-là, Cartonnet, lui, bascule dans la milice. Il assure le jour l'entraînement de ses jeunes recrues en uniforme noir et la nuit, il pilote leurs expéditions punitives dans la région.
Et comment le sportif en est-il arrivé là, Jean ?
C'est ce qui retient l'attention d'Yves Pourchet, qui fait intervenir un philosophe juif dans son livre qui s'appelle Wolf. Alors réfugié à Toulouse, il y rédige une thèse sur la caractérologie, inspirée par la formule de Nietzsche « Deviens ce que tu es ». Une faille infranchissable depuis l'enfance a-t-elle séparé Cartonnet en deux ? Un corps accompli et une tête de linotte, des capacités inouïes et une impossibilité de les travailler, une promesse de rester un amateur, mais un désir constant d'argent qui lui a fait multiplier les exhibitions payantes et les activités lucratives. Et en outre, il semble bien avoir été homosexuel, dans le sillage d'un étonnant député-maire d'Auxerre, René Tour, qui entraînait derrière lui toute une cour de gigolos, dont Cartonnet.
Le dernier épisode de cette histoire, Jean, beaucoup plus tard, 31 décembre 1950.
L'enfant et la femme de Nakache, qui avaient été arrêtés en même temps que lui, ne sont pas revenus de déportation. Le champion a repris son entraînement et presque retrouvé son niveau d'avant-guerre. Il mourra à 70 ans, ou presque, pris d'un malaise en faisant son parcours de nage quotidien. Mais on devine que Pourchet s'interroge davantage sur le mystérieux Cartonnet qui a filé en Italie, où il est arrêté par deux fois. La première, il s'évade. La seconde, il est libéré. Le caractérologue Wolf l'aurait retrouvé dans les derniers jours de 1950. Mais là, on entre carrément dans le roman. On a toujours été un peu dans le roman, dans ce livre, avec des questions du genre... Le slip de bain noir d'entraînement des miliciens était-il vraiment orné comme leurs uniformes du fameux signe gamma ? Et plus grave, Cartonnet a-t-il livré Nakache, son concurrent ?
Merci Jean Lebrun. À demain, dans un instant sur France Inter, la Terre au carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Marion.
Et alors, au programme aujourd'hui ?
Eh bien, comment peut-on restaurer la nature ? Ce sera le thème de l'émission.
Eh bien, réponse tout à l'heure.